Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
À briser. J'ai honte pour toi. Et comment faire? Comment faire? Comment tu fais-tu pour vivre avec un tel secret? Et pourquoi tu fais ça? Il lui dit, mon beau-père qui me l'a demandé. Il voulait que je lui prouve que j'étais de leur côté. Et lui dit, cet homme est ignoble. Tu aurais dû refuser. Il lui dit, ça n'aurait servi à rien. Il aurait refusé le mariage. Il m'aurait mis à la porte avec Mathieu. Et lui dit, peut-être. Mais ton honneur était sauf. Maintenant, comment vas-tu vivre avec cette fille? La fille de cet homme. Il lui dit, elle n'y est pour rien. Et lui dit, ça c'est toi qui le dis. Moi je n'aime pas ces gens. Je vais refuser leur aide. Elle était apeurée, lui dit, surtout pas, ils vont comprendre pourquoi. Et ça va être terrible. Pour empêcher qu'on en parle, ils sont prêts à tout. Ne parle pas. Et puis, tu m'as dit que tu ne dirais rien. C'est comme si tu ne savais rien. Et lui dit, et si j'en compte, cette pauvre mère. Et lui dit, fais comme si tu ne savais rien. Et lui dit, ce sera dur. Mais j'irai jamais, plus jamais voir ces gens. Mon pauvre petit, tu aurais mieux fait de rester chez nous, de fréquenter des gens qui ne sont pas de notre milieu. Ça ne peut arriver d'apporter que des malheurs. Il y avait bien d'autres jeunes filles à fréquenter. Elle pour celle n'aurait jamais dû te mettre dans ce lycée de riches ?» Et lui dit, « Madame Poncet n'y est pour rien. Et contre ces gens, elle les déteste. J'aurais dû l'écouter. Madame Poncet est une brave femme qui nous a beaucoup aidés. Et n'a rien demandé en échange. Elle, elle sait le bien, le mal. Elle ne fréquente personne. Parce qu'elle sait qu'à notre époque, il n'y a que des gens qui sont menés, guidés par le diable. » Elle lui dit, « Que faire ?» Il lui dit, « Jouer le jeu et attendre. Un jour, tout ça va finir. Il y a trop de misère dans ce monde. Les gens vont se réveiller. Et tu vas voir, ça finira très mal. Très très mal. » Les jours passent. Florence a peur. Ils sont tous les deux dans le lit. Elle lui dit, « Non, je ne veux pas. » Il lui demande, « Pourquoi ?» Elle lui dit, « Parce que je ne veux pas. » Il soupire. Elle lui dit, « Ça fait presque un an qu'on est mariés. Il faudra bien peut-être songer à le faire. » Elle lui demande, « Pourquoi ?» Il lui dit, « Mais parce que j'ai envie d'un enfant. » Elle dit, « Eh bien, moi, non. Et je suis tout de même libre de faire ce que je veux de mon corps. » Il dit furieux, « Et moi alors, je veux un enfant, comment je peux faire? Je suis ailleurs ?» Elle lui dit, « Sois pas idiot. » Il dit, « Et alors, je ne peux pas le faire seul? Et pourquoi est-ce que tu ne veux pas ?» Elle lui dit, « Parce que ça me fait peur. Et puis, je ne veux pas que mon corps se transforme en chose horrible. Je ne veux pas accoucher, je ne me vois pas accoucher. » Il lui dit, « Toutes les femmes le font. Elles n'en font pas des histoires. Peut-être, mais moi, je ne veux pas. » Il dit, « Si elles étaient tout comme toi, qu'est-ce que l'on ferait? Faudrait bien qu'un jour ou l'autre, tu me le fasses, ce petit. » Il lui dit, « Certainement pas. » Il lui dit, « Bien, il est furieux. » Et sort du lit. Elle lui fait, « Où tu vas ?» Il lui dit, « J'ai déposé ma semence où elle ne risque pas de te souiller. » Il va aux toilettes, finit de se masturber. Il en a assez. Elle est triste. Mais tiens bon, non, elle ne veut pas d'enfant. Elle ne veut pas être comme ces femmes, mères, qui élève et tout. Non alors, puis ces petits monstres qui pleurent constamment. Non, non et non. Absolument pas. Il revient et lui dit, « Et si on en adoptait un ?» Il lui dit, « Surtout pas, mes amis. Elles vont croire que je suis stérile. » Il lui dit, « Elles doivent déjà le croire. » Elle lui dit, « Peut-être, mais n'en sont pas tout à fait sûres. » Il lui dit, « Et qu'est-ce que ça peut te faire ?» Il lui dit, « Ça voudrait dire que je ne suis pas une femme complète. » Il lui dit, « Eh bien, pour leur prouver, faire un enfant. » Et lui dit, « Oh non alors, il est furieux. » Un soir, pendant le repas qu'ils prennent à la salle à manger, Albert et sa femme. Il lui demande, « Elle est enceinte ?» Il lui dit, « Non, non. » Il lui dit, « Pourquoi ?» Il lui dit, « Je ne sais pas moi, demande-le-lui. » Peut-être qu'il ne peut pas. Il demande, et pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas? Je ne sais pas, une famille de dégénérés. Il lui dit, pourquoi est-ce que tu dis ça? Elle lui dit, des gens du peuple. Et puis, la mère a tué deux personnes.
Il y a des gens très bien qui tuent.
Oui, mais pas les bonnes.
Tu dis n'importe quoi. Je veux savoir pourquoi elle n'est pas enceinte.
Eh bien, demande-le-lui.
Ce sont des conversations de femmes. C'est intime, ces choses-là.
Faire un enfant, c'est intime. Mais ça se fait avec vous, les hommes. Alors pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas lui en parler?
Tu es ridicule. Je ne suis pas le père. Donc, je ne peux pas me renseigner. Je ne peux pas savoir ce que fait ma fille.
Tu ne sais pas ce que font les gens mariés, une femme mariée, depuis le temps.
Il lui dit, avec toi, j'ai guère pu.
Elle lui dit, je suis une femme du monde.
Je sais, et élevée chez les religieuses, ça ne facilite pas les choses.
Nos religieuses sont plus modernes que toi, et ne savent plus que toi.
Je sais. Avant, avec tous ces avortements qu'il y a eu dans les couvents,
elle lui dit, tu es bête.
Oui, depuis 100 ans, elles sont toutes devenues lesbiennes. Comme ça, ça se passe entre elles, et c'est plus discret, et ça ne risque rien.
Je n'ai jamais rien vu.
Bien sûr, une innocente fille, elle hausse ses épaules. Bon, revenons à nos moutons. Je veux savoir pourquoi elle n'est pas enceinte. Est-ce à cause de lui, du surmenage ou quoi? S'il doit avoir un médecin, on l'amène chez Rika. Alors, tu fais ton enquête et tu me le dis.
Et soupir, elle dit, bien.
Le lendemain après-midi, elle va sonner à l'appartement de sa fille, qui est au-dessus de chez eux.
La porte s'ouvre, c'est la bonne. Elle lui dit,
bonjour ma fille.
Ma fille est là.
Je viens lui rendre une petite visite.
Est-ce qu'elle peut me recevoir?
La bonne lui dit, entrez madame.
Elle entre. Veuillez me suivre.
Elle amène au salon.
Entrez madame. C'est un petit salon meublé Louis XV. Elle la laisse pour prévenir sa maîtresse. La mère soupire. La porte s'ouvre et c'est sa fille. Elle la regarde bien, toujours aussi mince. Sa fille accourt à elle.
Elle lui dit, maman, que je suis heureuse de te voir.
Elle s'embrasse.
Florence lui demande, t'as quelque chose à me dire?
Non, rien, je suis venue comme ça.
Florence lui dit, allons nous asseoir.
Elles vont s'asseoir sur des chaises. L'une en face de l'autre.
Tu veux boire quelque chose?
Elle dit, oui, un thé.
Florence soupire.
Elle appuie sur la sonnette pour faire venir la bonne. Aurore regarde sa fille et lui dit,
tu me sembles en parfaite santé et tu baignes de bonheur. Tu n'as pas pris un gramme de poids, ma chérie. Mon mari et moi, nous demandions quand est-ce que nous allions apprendre la venue du petit prince.
Florence devient toute rouge.
Elle lui dit, il n'en est pas question.
La mère lui demande,
vous attendez encore un peu.
Florence lui dit, c'est-à-dire que... La mère lui dit,
c'est Alexis qui ne peut.
Ça arrive et ça se soigne.
Les garçons sérieux qui n'ont pas eu de relation avec des femmes, il leur arrive c'est de pouvoir donner de la vigueur à leur verge.
Mais ça s'apprend. Je connais un sexologue très bien.
Il fait faire des exercices sur une table.
Et dit,
Allez-y, poussez, poussez, poussez. Et à force, il arrive à raidir, raidir, raidir. C'est le docteur Paul Morel. Florence est toute rouge. Elle ne voit pas son mari faire ça comme ça. Elle dit, mais mère, Alexis est très bien. Sa mère lui dit, alors c'est toi qui ne peux pas. Tu as été voir un médecin? Florence lui dit gênée. C'est plutôt moi qui ne veux pas avoir d'enfant. Voilà. La mère lui demande, et pourquoi? Elle lui dit, parce que je n'aimerais pas en avoir. Aurore lui demande, mais pourquoi? Toutes les femmes rêvent d'avoir un enfant. Florence lui dit, eh bien moi non. Je ne comprends pas. Toutes les femmes, même lorsqu'elles sont petites filles, rêvent instinctivement d'avoir un enfant. Regarde, elles jouent toutes à la poupée. Sa fille lui dit, eh bien, pas moi. Tu sais très bien que je n'aimais pas ça et que je préférais des jeux de garçons. Aurore lui dit, et comment que je m'en souviens? Quelle horreur! Une fille qui joue avec des soldats en plastique, des tanks. Une fille d'instinct. Pouponne et a besoin de poupée. Sa fille lui dit, elle pouponne avec une poupée. Elle ne pouponne pas. Elle joue à ce qu'elle aimerait être et à l'ami qu'elle aurait aimé avoir. Regarde les poupées, pour la plupart, elles ne font pas tellement bébé, elles font petite fille et même femme. Alors, les bébés gens baigneurs, elles en ont moins ou point. La mère lui dit, c'est normal, certains baigneurs, on leur a mis des choses pas très pudiques pour une petite fille. Frappe à la porte. Entrez! C'est la bonne qui entre avec le thé. Elle va vers elle pour déposer des choses et faire le service. Aurore dit, un doigt de lait, merci. Et vous, madame, moi aussi. Une fois qu'elle fait le service, elle s'en retourne. Elle boit une gorgée en silence. La mère lui dit, alors, tu ne veux pas avoir d'enfant? Pourquoi? N'as-tu pas de fibre maternelle? La fille lui dit, et aussi parce que je ne veux pas que mon corps se déforme. La mère lui dit, mais ça redevient normal après. Puis l'accouchement, tout ça, bon. Donc, pas de petit-fils. Et qu'est-ce qu'en dit ton mari? Elle lui dit, lui en aimerait un, bien sûr. Mais ce n'est pas lui qui aurait tous les inconvénients. Lorsque Aurore revoit son mari au salon, elle lui dit, j'ai été voir notre fille cet après-midi. Il lui fait, bien. Il lui dit, c'est elle qui ne veut pas d'enfant. Il lui demande, et pourquoi? Il lui dit, parce que ça ne lui plaît pas. Elle n'aime pas ça. Il lui dit, alors, n'auront pas de petit-fils. Il est furieux. Lorsqu'il voit sa fille, il lui bat froid. Il lui dit, je veux un petit-fils. Il dit, faites-le vous-même. Il est furieux et lui dit, alors, à quoi ça sert d'être marié? Les jours passent. Thank you.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Non, rien, j'avais cru entendre quelque chose.
Alexis et sa femme sont invités à de nombreuses soirées à Paris. On les trouve charmants.
Oh, tu vas de travers.
Alexis reste toujours à l'écart. Il parle peu. Il garde ses distances. Sa femme, elle, discute beaucoup. Danse, rit. Elle aime la compagnie.
Peut-être qu'il n'a pas les épaules pour assurer. Hein.
Il s'est fait tout seul, c'est pas évident, tu sais.
Lui,
je critique pas.
Dans la foule, guette Frédéric pour lui parler un peu.
C'est ça,
des fois, il voit Gilbert, mais Gilbert reste distant.
En tout cas, tu sais que tu peux compter sur moi.
Dans les grandes villes, les choses se dégradent. Il y a de plus en plus d'émeutes, de vandalisme. Les gens se sentent abandonnés. Le pouvoir est faible. Il se veut faible. Parce qu'il a une politique. Très dur vis-à-vis des pauvres. C'est leurs éliminations. Alors ils laissent dégrader les choses. Ils laissent dégrader les choses en laissant les gens surtout détruire sans intervenir. Il y a de plus en plus de pauvres, de démunis. Et ces pauvres démunis n'ont plus rien à perdre. Alors ils font ce qui leur passe dans la tête. Ils veulent. Cassent. Tabassent. L'alcool, le mauvais alcool, fait de n'importe quoi, des drogues de toutes sortes, les y aident. Il suffit que quelqu'un crie, qu'on tape, qu'on mette le feu à une voiture, qu'on la fasse mettre dans une vitrine, pour que les choses commencent. Ces gens-là sont de plus en plus nombreux.
Ils sont laids, maigres, sales, habillés de hardes, ressemblent à des zombies. On raconte des tas de choses sur eux. Des tas de choses sur eux, même qui dévorent des cadavres, qui se mangent entre eux. On dit aussi qu'ils volent des enfants pour les vendre ou les manger. La misère colporte toujours des histoires comme ça. Des histoires d'ogres, de vampires, de garous, de loups. Il faut bien que les gens trouvent des responsables dans l'état où ils sont. Alors les gens qui traînent, que l'on ne connaît pas, qui sont spéciaux, etc., jouent le rôle de la bête terrible. Sanguinaire. Il y a aussi, pour ne pas arranger les choses, des mutants, des chimères, mélangés aux humains, et qui ne sont rien, mais font peur aux gens, parce que ils ne sont pas des hommes, ils n'ont pas le statut des hommes, mais ils ressemblent aux hommes. Pourtant, ces mutants et ces chimères, qui ne sont rien, pour certains travaillent, en règle générale, ne sont pas bien méchants, et même sont des animaux domestiques. Même ceux qui surveillent les chantiers ne sont pas bien méchants. Mais ils font peur. Est-ce qu'ils ressemblent physiquement aux hommes, à monsieur tout le monde? Ce qui veut dire que n'importe qui peut en être. Et qu'on ne peut pas savoir si son voisin en est un ou non. Bien entendu, ces chimères mutants peuvent être des espions de la police. Au lieu de faire du travail de manutention, ils espionnent. Ils sont programmés pour ça. Et ils ont ce qu'il faut. Des oreilles qui peuvent entendre, même à travers les murs, et enregistrer en même temps des yeux à 90 degrés qui enregistrent et voient la nuit. Ils sont moitié machine, moitié homme. Donc ils peuvent, avec tout un appareillage spécial sur eux, recevoir des ordres de centrale et donner des informations. Le service peut voir ce qu'ils voient et entendent. Et tout ceci en direct, s'il le désire. Les mutants et les chimères ont une moyenne de vie de 15 ans, c'est-à-dire que c'est très courte. Ils ne peuvent pas se reproduire, mais peuvent avoir un acte sexuel, même avec des humains. Il y en a de deux sexes, des deux sexes. En plus,
quelque chose.
Des mutants, chimères, y a la police, l'armée. Elle reste discrète, mais tout de même, de temps en temps, elle sort. Et lorsqu'elle sort, il y a la tuerie. Sans oublier, bien entendu, les hommes en noir. Tout ceci fait que les gens se sentent instables. En même temps, j'ai l'impression c'est qu'on ne s'occupe pas de leurs problèmes. Il y a des lieux spécialisés pour les SDF, comme je vous l'ai déjà expliqué. Ces lieux qui se trouvent dans les villes qui forment un cercle. Il y a aussi des maisons de retraite, des prisons, des hôpitaux, des écoles spécialisées et des HLM. Mais tout ça ressemble beaucoup à des prisons. Tout ça sert à entourer la population pour qu'on puisse les humilier et surveiller. Le gouvernement agit comme un gouvernement autoritaire, de dictature dure. Mais en réalité, le gouvernement ne fait rien. Il a donné les pleins pouvoirs au groupe Pontois, puis Jeune-Tout et maintenant Franc-Blanc, qui gère tous ces lieux, disons, de détention, de réunion, de ramassage. Le gouvernement a donc donné les clés du pays au groupe Franc-Blanc pour qu'il s'occupe de la sélection de toute la population et d'élimination de certains groupes de gens. Il les trie, les met ensemble dans des lieux et les élimine peu à petit feu. En plus de cela, le groupe Franc-Blanc devient propriétaire de toute la France. Les villes, les particuliers, lui, vendent leurs terrains. Et les terrains deviennent propriété privée, Franc-Blanc. Il n'y a plus de terrain privé, public. Il n'y a que le terrain Franc-Blanc. Ils ont tous été vendus au groupe Franc-Blanc, qui les a achetés à bon prix. Ce qui a permis de se faire et de faire au gouvernement de bons comptes en banque. La France a été rachetée, sans qu'on le sache, par le groupe Franc-Blanc. Le groupe Franc-Blanc, le groupe le plus puissant du monde. C'est lui qui loge, instruit, informe, donne du travail, soigne. Soigne les gens, il les surveille aussi, les élimine quand il faut. L'armée devient aussi privée parce qu'elle est achetée par Franc-Blanc et qu'elle est à son service. Alors pourquoi ? Dans ce monde si parfait, si bien organisé, où tout le monde est à sa place, pourquoi y a-t-il des émeutes ? C'est d'abord parce qu'on le veut bien. Comme ça, ça permet de dire qu'il faut être plus fort pour réprimer tout ça. Puis les gens ont peur, c'est d'aller dans ces lieux spécialement pour eux. Ils ne veulent pas être dans des endroits pareils. Alors, on fait des batailles On se rebelle contre ce système. Ils veulent rester libres. Pour les punir, on les laisse dans la misère et on les tue. On les fait plutôt s'entretuer. Voilà l'état du monde où nos amis vivent. Je dis bien le monde parce que Franblanc a de plus en plus de contrats avec les autres pays qui regardent avec envie notre système. Même l'Amérique signe avec Franblanc parce qu'elle dit que c'est mieux que les villes à la Disney. Les jours passent. Alexis a toujours autant de travail. Il va à Lyon en train pour aller visiter les usines Pontoise. Pour toi plus. La ville est devenue une immense cité, zone 2, parce qu'on y déverse les zones des autres villes, les UP des autres villes, sont amenées par camions entiers pour aller dans la ville, pour être logés dans la ville. Lyon, c'est l'horreur. Il y a des tas de SDF, des anards. Les gens vont être déçus parce qu'ils croient que la ville est une ville du patrimoine de l'humanité. Mais lorsqu'ils vont voir ce que c'est comme ville, ils vont être terrorisés, les touristes, et s'enfuir avec horreur, peur. La ville n'est plus devenue la ville du patrimoine humanitaire, mais ville zone de choc, sinistrée comme Marseille, en démolition.
C'est pas bien. 16, 14 et 16, 15, ça vous fait arriver à 5 euros.
Bien de tourner des lignes.
C'est pas bien. 16, 14 et 16, 15, ça vous fait arriver à 5 euros.
Bien de tourner des lignes.
En sortant de la gare de Perrache, il prend un taxi
aller aux usines Pontoir Plus.
La Grande Cascade,
L'usine se trouve sur les quais du Rhône. Après la vitrerolerie. Elles sont restées les mêmes en dehors du monde. C'est une entreprise très grande, avec ses rues privées, ses quais, ses immeubles, ses bureaux, son siège, ses entrepôts. C'est propre, nickel, il ne manque rien. Continue à fabriquer des produits de beauté, bio, des aliments de régime, de luxe pour hommes et animaux, plus chimères et mutants. On crée des ordinateurs, des produits pharmaceutiques, médicaux, chimiques, etc., etc. L'entreprise pharmaceutique Gap a été reliée au groupe et à l'entreprise Pontoir. Elle était à côté, il a suffi c'est d'ouvrir une porte pour relier les deux entreprises. Le groupe Pontoir a aussi sa maison de disques, ses radios, télévisions, multimédia. Fait de l'humanitaire, restaurant pour SDF, clinique. L'humanitaire, c'est Pontoir Stéphanie Humanitaire Plus. Il n'y a plus de Pontoir ni de Dieppe. C'est le groupe Franblanc qui gère tout ça avec ses conseillers d'administrateurs propres aux deux groupes. Mais c'est Franblanc qui coordonne tout ça, qui dirige tout. La direction Pontoir, DIAP, ne sert qu'à gérer et à exécuter les ordres du groupe Franblanc. Ce ne sont que des filiales. Leur comptabilité dans le groupe Franblanc. Ils ne peuvent rien faire sans le demander à Franblanc. Tout passe par le groupe Franblanc. Et tout passe par les banques Franblanc. Banques privées pour eux. Donc Alexis visite le groupe Pontoir et en même temps, il présente ses produits qu'il a réalisés pour leur demander si ça les intéresse. Ce sont des produits alimentaires. Le groupe Pontoir, chaque fois qu'il prend quelque chose, doit payer au groupe Grandjean pour la commercialisation du produit. C'est comme des droits d'invention ou autres, etc. Et ceci même, les deux groupes le font, même s'ils font partie du groupe central Franblanc. Mais entre les groupes, ces marchés peuvent se faire, les échanges aussi, mais avec l'aval du centre, c'est-à-dire de Franblanc. Et s'il passe sa journée dans le groupe Pontoir à présenter ses produits. Il a présenté ses carottes qui ne pèlent pas. Et qui sont vitaminés, qui ont la même forme et taille. Du lait vitaminé est teint de différentes couleurs. Des bananes de vaccination. Et après avoir passé la journée avec le groupe Pontoir, il reçoit
une invitation pour aller voir le maire de la ville à l'hôtel de ville. Il y va le lendemain de son arrivée. Le maire le reçoit à son bureau à l'hôtel de ville. Grande pièce, Louis XV. C'est un homme grand, mince, cheveux rares, tête ridée et ronde, habillé d'un costume gris. Il l'a fait asseoir en face de son bureau, dans un fauteuil.
Le maire lui dit, « J'ai de très gros ennuis dans cette ville. Et puis mon fils a pris la tête des anards de Lyon. C'est un comte 30 ans qui a des idées de gosse. Il a une copine comme lui. Sorte avec des gorges, des jeunes, cons. Ils m'en font voir toutes les couleurs. Ça casse, mais la ville a fait un sang. Je ne sais que faire. S'il n'y avait pas sa mère, qui le traite comme son petit chéri, je leur ai coupé les vivres depuis longtemps, saligaud. Il y a toute une bande de jeunes de 15 ans qui lui sont tout dévoués et le prennent pour un dieu. Je suis désespéré. Que faire? Vous voyez Lyon, comme elle est cette ville? Et s'il lui dit, oui, monsieur le maire, mais même à Paris, c'est la même chose. Et peut-être même plus délabré, mais elle lui dit, je sais que vous avez des ennuis, mais pas autant de cons qu'ici. Nous ne sommes plus patrimoine de l'humanité, mais ville morte. Voilà. Je vous ai fait venir, c'est pour vous dire, c'est que j'ai encore, et je vais encore essayer de sauver de l'anarchie cette ville. J'ai des projets. J'aimerais c'est que vous puissiez trouver quelque chose que l'on mettrait dans les aliments des cantines scolaires, universitaires, etc. pour que les jeunes soient plus calmes, plus sociables, les rendre plus souples. Je ne sais pas moi, Telesta ou des contractiles, ou quelque chose de plus fort. Quelque chose dans les aliments et puis aussi pour leurs pulsions sexuelles. C'est ces pulsions qui est la cause chez les adolescents de leurs troubles nerveux à 80%. Est-ce que vous pourrez trouver quelque chose? Et c'est lui dit, tout est possible. On peut mettre dans vos produits alimentaires ce que vous voulez, et même sans odeur, ni... Et c'est invisible.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.